Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Débattre la campagne. Alors, vous savez que Débattre la campagne est diffusé chaque semaine, hein, simultanément sur le site de notre web radio, micro-rebelle.fr, et également chez nos amis de Radio Plus, 104.3, la radio du bassin minier et de l'Artois. Alors, avec cette émission Débattre la campagne, Micro-Rebelles et Radio Plus ont voulu en quelque sorte profiter des élections présidentielles et législatives qui se dessinent pour interroger des concepts tels que la démocratie, tels que le politique. Hein, on a eu plusieurs déjà émissions à ce sujet. Et convier, interroger en quelque sorte les différentes sensibilités qui se présentent à ces élections. Mais pas seulement. Et notamment aujourd'hui, on a souhaité inviter Dominique et Cathy, hein, qui, eux, s'investissent pour le boycott actif de ces élections. Donc ça nous a semblé important d'élargir un petit peu le champ de nos interrogations, de nos préoccupations, en amenant cette nouvelle sensibilité, la sensibilité du boycott actif des élections. Alors, je vais commencer par toi, Dominique, bonjour, hein, tout d'abord.
Bonjour.
Peut-être, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, de où tu viens, et ensuite on abordera peut-être plus précisément cette question du boycott actif des élections. Donc, si tu peux nous parler de toi.
D'accord. Donc, moi, j'ai commencé à militer, à faire de la politique en 68, grâce aux événements de 1968. Et je me suis engagé très rapidement dans une organisation de l'époque, la gauche prolétarienne, qui était maoïste, communiste. Et ça m'a permis de me développer politiquement, d'apprendre plein de choses dans les livres, Marx, Lénine, même Staline et Mao, jusqu'à la dissolution de la gauche prolétarienne en 75, avec laquelle d'ailleurs je commençais à ne plus être d'accord sur les pratiques. Et donc, je me suis retrouvé à militer dans les mouvements de société comme comment la lutte pour l'avortement, la contraception et d'autres choses comme ça. Et après, il y a eu une petite période comme ça à vide. Et en 2002, je me suis rapproché de la LCR parce que j'avais envie justement de remiliter à cause de la montée du Front National. Et de 2002 jusqu'à 2012, j'ai été à la LCR puis au NPA, que j'ai quitté à cause de leur enfermement et à cause aussi du fait que ils se repliaient sur eux-mêmes, sur des théories bien trop trotskistes et qui faisaient fuir tout le monde. Et donc, j'ai arrêté de militer dans un parti à ce moment-là, et je me suis posé la question de savoir, mais à quoi ça sert un parti? Est-ce qu'on ne peut pas militer autrement? Et donc, de 2012, où j'ai fait la campagne, enfin non, pas j'ai pas fait la campagne, mais où j'ai voté Mélenchon, juste après, je me suis rendu compte que mais tout ça n'avait vraiment aucun sens politiquement. Et là, pour cette élection, j'ai pris la position de dire, voilà, moi, je ne vote plus parce que, en fait, ça fait 50 ans que je vote et ça fait 50 ans que rien ne change. Donc, est-ce que c'est vraiment par les élections qu'on veut renverser le régime gaullien? Parce qu'il faut quand même se souvenir que nous sommes sous la constitution du général de Gaulle.
Ben
Et donc,
si tu permets, on va y revenir, hein, sur l'aspect développement
d'accord.
de où tu en es aujourd'hui, justement.
Oui.
Cathy, est-ce que tu peux aussi
Oui,
nous
bien
parler de
sûr.
toi?
Alors, j'ai commencé à militer dès la première guerre du Golfe, parce que j'étais horrifiée, révoltée, que tous ces pays occidentaux attaque l'Irak. pour une histoire de pétrole. Alors j'ai demandé à un camarade communiste que je connaissais, s'il avait une manière de pouvoir militer contre cette guerre, et c'est ainsi que je suis rentrée au Parti communiste, pour la première fois. Et vite, assez vite, grâce aux personnes que j'ai rencontrées à l'intérieur, je suis entrée dans une mouvance stalinienne. Et je suis devenue moi-même stalinienne. Et j'étais vraiment très proche des idées de Staline. J'ai commencé à lire tous ses livres. Et en même temps, j'avais créé un petit cercle, le cercle Marx. Il y avait tous des jeunes comme moi. On se réunissait le samedi après-midi. On discutait, on parlait des livres qu'on pouvait lire, etc. Je suis restée longtemps dans cette mouvance stalinienne. Mais je m'en suis défaite. Je me suis défaite au bout de plusieurs mois quand je me suis rendu compte de l'enfer du décor, de l'envers du décor, c'est-à-dire que Staline, en fin de compte, lui aussi, malheureusement, a tué des innocents. Bon, c'est tout, je ne développerai pas là-dessus, après tout, c'est comme ça. Alors j'ai décidé de rester communiste, communiste libertaire marxiste. Parce que je pense que l'un n'est pas incompatible à l'autre. Voilà. Ensuite, après cette période, j'ai eu un long passage à vide pour revenir par à coup. D'abord m'occuper avec d'autres personnes des sans-papiers. Parce que les sans-papiers m'ont toujours, toujours fait mal leur situation. J'ai toujours milité pour eux, d'une manière humanitaire, d'une manière politique aussi. Pourquoi n'auraient-ils pas les mêmes droits que nous, peuple français qui vivons en France ? Alors j'ai continué avec ces sans-papiers. Ensuite, je suis rentrée au NPA, à la LCR d'abord. LCR qui s'est transformée en NPA. Et c'est dès que cette LCR s'est transformée en NPA que je m'en suis défait. Parce que j'avais l'impression que j'avais plus de rôle à tenir, que je n'en pouvais plus. J'ai eu un passage à vide à nouveau. Je suis revenue militer. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de luttes, notamment une, par exemple, pour les retraites. J'ai beaucoup manifesté pour les retraites, à l'époque de Sarkozy. Et je manifestais avec les anarchistes, avec qui je me sentais très bien, très à l'aise. J'en connaissais un qui était secrétaire de la CNT, par exemple. Pas mal de camarades qui militaient à la CNT également. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis redéfait de tous ces mouvements quand j'ai vu que cette loi retraite est entrée en force grâce au 49.3 de Monsieur Sarkozy. Ensuite, beaucoup plus tard après, il y a eu la fameuse loi travail, où à nouveau, remanifestation. Et je remanifestais à nouveau avec des camarades que je connaissais, et un notamment avec qui j'ai l'honneur de partager cette émission aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Donc j'ai milité avec lui. Grâce à lui, nous avons fait plusieurs organismes. Nous avons été ensemble. Ensuite, nous avons voulu créer un organisme ensemble, tous les deux, Podemos Lille, qui, on sait ce que Podemos est devenu en Espagne, grâce, plutôt à cause de Iglesias qui a trahi son peuple, qui a trahi Podemos, qui a trahi ce que Podemos aurait dû devenir. Et moi, j'ai voulu me détacher de Podemos. Je me suis détachée de Podemos. J'ai même voulu brûler la banderole. Ça m'a été déconseillé, donc cette banderole, je l'ai pas brûlée. Et j'ai décidé de faire des choses beaucoup plus constructives. Comme par exemple, à l'époque de la loi Khomri, j'ai demandé pourquoi est-ce que nous ne resterions pas à faire le siège de la place de la République. C'était bien avant que Nuit Debout existe. Il y avait des jeunes qui étaient d'accord avec nous, des jeunes étudiants, et puis d'autres. Et puis on a commencé à s'asseoir. Bon, après, comme on voyait que malheureusement ça ne donnait rien, les choses continuaient comme elles devaient continuer. Puis le Nuit Debout, Lille, a commencé à exister. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça ne servait pas de rien. En même temps, on était syndiqués à la CGT, on continue à militer pour des camarades qui ont été emprisonnés injustement, comme ceux de Goodyear par exemple, les 8 de Goodyear. Et d'ailleurs, le 22 avril, je voudrais faire une annonce vite fait, il y a à Paris la manifestation pour Michael Vamen. Voilà. Et nous, on ira. Alors, également, donc, j'ai continué à militer dans ce sens-là. Et ensuite, à quoi bon, je me suis dit, à quoi bon continuer à voter? Pourquoi voter? Pour qui voter? Pour un Mélenchon qui est social-démocrate? Pour qui voter? Pour un Benoît Hamon qui se retrouvera irrémédiablement seul? Pour Philippe Poutou qui, même, est quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui est anticapitaliste, que je suis moi. D'ailleurs, je dis haut et fort que je suis anticapitaliste et je n'en ai pas honte. Alors, j'ai décidé de militer, d'être pour créer une organisation qui boycotte ces élections.
Alors, Cathy, donc on va justement commencer à développer cette partie-là, mais j'avais envie de revenir, Dominique et Cathy, sur un aspect. Notamment, Cathy, tu évoques les initiatives concrètes que tu avais en direction de sans-papiers. Hein, ça me semble tout à fait intéressant. Donc, j'avais envie d'élargir un petit peu cette question. C'est, est-ce que vous êtes, par ailleurs, impliqué dans des initiatives comme celle-là? Est-ce que vous avez d'autres investissements, d'autres engagements? Dominique?
Oui, alors, par exemple, pour les sans-papiers, il y a les jeunes qui restent de la jungle de Calais, qui sont arrivés à Lille, enfin pour une partie, parce qu'il y en a d'autres ailleurs, et qui se sont installés dans un quartier de Lille pendant un an. Et dans ces jeunes-là, ils ont aussi intégré d'autres jeunes qui ne sont pas forcément passés par la jungle de Calais et qui se sont installés avec eux. Donc nous, on a pris fait et cause pour ces jeunes-là parce qu'ils sont tous mineurs et ils n'ont pas de statut. C'est-à-dire que théoriquement, la préfecture aurait dû et devrait leur donner un statut de mineur pour les héberger, pour la scolarisation et pour faire des bons papiers. Sauf que ça fait un an et demi que ça dure et ils n'ont toujours rien.
Ce sont les jeunes qui sont au parc des Hauts-Lieux.
Voilà. Hein, mais le parc des Hauts-Lieux a été démantelé, si bien qu'en hiver, si bien que ces jeunes-là ont dû trouver des places d'hébergement à droite à gauche, et même il y en a qui ont dû dormir dans des églises. Ils ont pris un squat, sauf que le squat, une semaine après, a été fait déloger par la police. Le 20 décembre, hein, en plein hiver, alors qu'il faisait archi froid, en faisant murer le squat avec tous les affaires personnelles de ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de vêtements, ils n'avaient plus de couverture, ils n'avaient plus de nourriture, tout a été emmuré. Si bien qu'ils se sont retrouvés sans rien du tout sur le dos, dehors. Alors, il y en a quand même qui ont été malgré tout hébergés, sauf qu'il n'y avait pas de place assez pour tout le monde. Et donc, on a décidé, nous, comme rebelles, justement, d'en héberger un, alors qu'on sait aussi qu'il y en a d'autres, il y a d'autres familles d'accueil qui en ont hébergé aussi. Donc c'est ça notre implication, c'est pas seulement aller manifester en disant que c'est pas bien que les mineurs ne soient pas hébergés, mais c'est aussi de les héberger de façon très concrète. Et donc oui, nous hébergeons un mineur, on le dit haut et fort aussi, on ne s'en cache pas, on demande justement à tous les militants de gauche qui disent oui, on va régulariser tous les sans-papiers et tout ça, mais on leur dit mais que faites-vous pour ces sans-papiers là? Pourquoi ne les hébergez-vous pas? Il y a plus de 200 000 clics sur internet pour dire que ils sont d'accord avec le programme de Mélenchon, mais on peut peut-être imaginer que ces 200 000 clics fassent 200 000 accueils de migrants et un problème serait résolu parce que la police elle ira jamais déloger 200 000 personnes sur toute la France. Donc ça peut être une idée. On n'a pas besoin d'être dans un parti pour développer cette idée-là. Hein? Donc voilà, on s'investit aussi dans les sans-papiers.
Très bien. Cathy, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, tout à fait. Par rapport à ce migrant mineur, d'ailleurs, je voudrais ajouter.
Oui.
On n'a pas peur. On continuera avec lui. On l'a logé, on l'a nourri, on lui a lavé ses vêtements. Ce gars, c'est un frère pour nous. Et nous ferons tout pour lui. Et voilà, c'est un garçon qui n'a que 16 ans, 17 ans maintenant, à qui on a réussi à avoir des papiers, et qui bientôt pourrait être quelqu'un qui pourra vivre comme nous, peut-être suivre des études, peut-être faire une formation. Et comme dit si bien Dominique, pourquoi est-ce que des gens qui se prétendent, par exemple, d'un parti de gauche, ne pourraient-ils pas à leur tour héberger eux aussi des migrants mineurs ou des migrants tout court? Pourquoi? Au nom de quoi? Il faut être humain dans la vie. Je pense qu'il faut être humain et continuer à militer et à mettre en pratique ces idées.
Alors je te remercie Cathy, mais peut-être une question en pratique. Votre groupe, c'est qui? Ce sont des jeunes? C'est combien de personnes? Et que fait le collectif pour le boycott actif des élections?
Actuellement, nous sommes une petite dizaine et ça navigue autour de 10. Nous allons nous agrandir et puis encore nous agrandir. Et dès le 2 avril, nous allons présenter notre première présentation à Oisem. Nous voulons que ce soit populaire, nous allons aller dans les quartiers populaires, dans des quartiers ouvriers. Ensuite, on ira également quand même, parce qu'il faut y aller aussi, place de la République. Pour moi, c'est la place du peuple. Et ensuite, place, la Grand Place, en face de la Voie du Nord, journal licencieur. On se mettra en face de la Voie du Nord. Et on parlera justement de la Voie du Nord, qui licencie ses salariés. On en parlera. Également, place de l'Opéra. Ensuite, l'île Sud. Ensuite, Moulins. Ensuite, également, place de Getter, à Fives. Nous voulons aller dans tous ces quartiers populaires et ces quartiers ouvriers. Nous voulons aller voir les jeunes des quartiers. Nous voulons aller voir les jeunes de l'île Sud, discuter avec eux, les investir. Parce que ces jeunes, malheureusement, où sont-ils? Où sont-ils, ces jeunes? Ils sont entre eux et nous voulons leur faire comprendre qu'il y a une voie pour eux aussi, pour venir militer avec nous, pour pouvoir faire des actions, eux aussi, qu'ils fassent des actions et des actions constructives avec nous. C'est ça que je demande, que les jeunes s'investissent, qu'ils aient leur place eux aussi dans ce monde militant, dans ce monde qui veut changer la société.
Alors je vais revenir justement sur différentes petites choses que tu as dites, que tu as évoquées, Cathy. Puis vous posez la question à tous les deux. Alors, donc, le boycott, hein, tu parlais du boycott en disant l'utilité du vote. Tu as aussi parlé de la République en ayant un grand doute dessus. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez revenir sur les raisons de fond qui font que aujourd'hui vous dites non, on ne vote pas, on boycotte?
Alors, comme j'avais déjà un petit peu dit tout à l'heure, moi, depuis 50 ans, j'ai voté. Et je n'ai rien vu de changement radical par le vote. Même quand il y a eu le pouvoir socialiste, que ce soit Mitterrand, Jospin ou Hollande. Donc on se rend bien compte que dans ce système de la Ve République, il n'y a pas d'issue dans un renversement de régime par le vote. C'est-à-dire que les élections n'ont jamais fait renverser un régime pour le remplacer par une démocratie par le peuple. Et donc moi je me suis rendu compte petit à petit que est-ce que il ne faut pas passer par une autre forme de radicalisation qui est justement de s'abstenir fortement et de le dire à tout le monde, donc en boycottant, justement parce que si on fait descendre les bulletins de vote dans les urnes, on va s'apercevoir rapidement que ceux qui sont quand même élus seront très mal élus, c'est-à-dire qu'ils deviendront illégitimes et ils ne représenteront jamais le peuple dans son entier. C'est-à-dire que même avec 30% d'abstention, quand on est élu à 51%, ça veut dire que la personne est élue sur la totalité de la population à 35%. Est-ce qu'il peut dire aux gens, à la télévision, les yeux dans les yeux, « Moi, je suis légitime parce que j'ai été élu avec 35% de la population générale ?» Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on continue cette abstention, ce boycott actif, ils ne pourront plus jamais dire qu'ils sont légitimes. Et là, le régime va s'affaiblir de lui-même. Tandis que là, ceux qui votent en ce moment, que ce soit n'importe quel parti, ben, ils sont en train de perpétuer le système en mettant des bulletins dans les urnes. C'est-à-dire qu'ils se contentent exactement de la constitution du général de Gaulle en disant « ben oui, ben on va voter, on est contre le système, mais on vote quand même dans le système ». Donc là, il y a une contradiction politique qui fait que ben nous, on se pose cette question-là. Est-ce qu'il faut continuer à nourrir, à alimenter et à perpétuer ce système avec nos bulletins de vote plutôt que de se dire « eh ben on va saper ». Par en dessous, le régime, en se dégageant de ces institutions-là, et de dire bon ben voilà, maintenant vous êtes illégitime et on ne vous suit pas. Et à chaque fois que vous nous présenterez des lois, on s'en foutra. C'est-à-dire, eh ben, on est des rebelles de la société. Alors, c'est pour ça que ça va aussi avec le système des partis, parce que qu'est-ce que font les partis ? Les partis veulent être élus justement pour croire que dans l'Assemblée nationale, ils ont un pouvoir. Je voudrais bien savoir lequel, et je voudrais bien savoir les acquis sociaux qu'on a eus par les votes. Ben, pratiquement aucun. Tous les acquis sociaux qui ont été obtenus depuis 1936, ça a été que par des luttes, que par des grèves illimitées et que par des manifestations de rue ou de rébellion. 36, 47, 1968, tout ça, ça a été des combats qui se sont passés dans les luttes et non pas dans les urnes. Les urnes nous ont donné que des miettes en faisant scintiller, en disant « voilà, vous avez une cinquième semaine de congés payés supplémentaires, voilà un bel acquis ». Sauf que moi, j'ai jamais vu de pauvres qui se sont sortis de la pauvreté avec une cinquième semaine de congés payés supplémentaires. C'est pas ça qu'on réclame. Bien sûr que c'est bien d'avoir une cinquième semaine, mais c'est pas ça qu'on réclame. On réclame qu'il n'y ait plus de pauvreté en France et que les gens qui gagnent trop d'argent puissent justement dire bon ben non, on gagne trop d'argent, on le redistribue. C'est à nous à redistribuer l'argent qu'on donne à des Bettencourt, des Bolloré et compagnie. Une cinquième semaine, ça n'a jamais pris quoi que ce soit comme argent chez Bolloré ou Carlos Ghosn et tout ça. Hein, ils s'augmentent eux-mêmes sans penser que ben les gens qui ont le SMIG ne peuvent pas s'augmenter eux-mêmes. Malheureusement, ils ne sortent pas de la pauvreté. Je rappellerai que en 1968, le SMIG a été augmenté de 25% grâce au mouvement de 1968. Car on avait un rapport de force populaire qui a fait les accords de Grenelle. Et à ce moment-là, les patrons ont été obligés de céder, car nous avions le rapport de force. On n'est pas passé par les urnes pour ça. Et là, Monsieur Mélenchon, dans son programme, nous annonce qu'il va augmenter le SMIC de 150 euros, c'est-à-dire 13%, c'est-à-dire moitié moins de ce qu'on a gagné en 1968. Moitié moins en passant par le vote. Alors à quoi ça sert ? On sait bien que le vote, ça ne sert plus à rien pour gagner des acquis sociaux. Au contraire, on est en train de les perdre année par année, que ce soit pour les retraites, la loi travail et compagnie.
Finalement, ça rejoint à ce que tu disais, Cathy, il y a quand même une dimension très fortement anticapitaliste et sorti du système dans cette démarche.
Oui, entièrement. Hein. Bon, moi-même, Dominique et moi, nous sommes tous les deux anticapitalistes à 100%. Et moi, je voulais ajouter contre cette République, c'est que moi, je suis devenue anti-5e République à l'âge de 17 ans. Pas longtemps après que Mitterrand ait été élu. C'est sûr que le soir où il était élu, on était tous contents. Je me souviens, j'étais chez mes parents, mon père, il a hurlé de joie. Et moi, je regardais par la fenêtre. Je voyais des voitures qui circulaient, des voitures des drapeaux rouges qui chantaient l'international. Je me souviens, je pleurais de joie quand je voyais ça. Mais 2-3 mois plus tard, je me souviens, j'étais dans la rue, à côté de la MNE, qui est devenue la MRES aujourd'hui. J'étais avec un ami. Il disait, tu sais, Cathy, Mitterrand est passé, mais il n'y a rien de changé.
Bien, on va continuer avec Cathy et Dominique. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur Micro Rebelle, dans l'émission Débattre la campagne, sur Micro Rebelle et sur Radio Plus 104.3, la radio du bassin minier et de l'Artois. Alors nous sommes aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, avec des représentants du collectif pour le boycott actif des élections. Et on va s'interrompre quelques instants pour une petite pause musicale. Alors étant donné la thématique et nos invités, on a choisi de vous proposer une chanson du poète Gaston Coutet, une chanson qui s'intitule « Les électeurs ». Alors vous allez voir, Gaston Coutet, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un chansonnier, mais c'est un poète libertaire qui est né en 1880, il est mort en 1911. Donc il est mort assez jeune, et dans cette chanson assez savoureuse, il nous évoque sa relation avec les élections. Alors, donc cette chanson, Les électeurs, nous est interprétée par un groupe du Périgord qui s'appelle Pierrot Noir. Je vous laisse l'écouter et je vous retrouve tout à l'heure.
Oh bon Dieu, à des affiches sur les portes des granges. Si donc qu'il y aurait quoi quelque baladin en nuit dimanche qui dansait sur les cordiaux au biomitant de la place? Ben non, c'est point ça. Tantôt, on vote à la mairie. Et les grands mots qui flûtent sur le dos du vent qui passe. Dévouement, intérêt, république, patrie. C'est le peuple souverain qui lit les affiches et qui les relit. Les vaches, les moutons, les ouais, les dindons s'en vont au champ ni plus ni moins que les autres jours, en fiantant loin, loin, long des affiches du bourg. Les électeurs s'en vont aux urnes en se rengorgeant. En route, allons voter! A créé bon Dieu les bonnes gens. C'est nous que je tenons à cette heure, les massins de la charrue. J'allons la faire aller à Dieu ou ben à U. Et pour l'abstention, c'est vos idées qui vous appellent. Profitons que je somme le suffrage universel. Les vaches, les moutons, les ouais, les dindons, pâturent dans les chaumes d'orge, à belle goulée tranquille, sans se même songer qu'ils sont privés de leur prouesse civile. Il y a Monsieur Chose et Monsieur Machin comme candidats. Les électeurs ont pas les mêmes paires de lunettes. Ben moi, je voterai pour ce là. Ah ben moi, j'y voterai pas, c'est une foutue crapule. Ah non, c'est un gars qui est honnête. C'est un partageux. Non, c'est un cocu. C'est pas vrai. Ben on dit qu'il fait élever son gauche chez les curés. C'est un blanc. C'est un rouge. Qui disent les électeurs? Les aveugles se chamaillent à propos des couleurs. Les vaches, les moutons, les ouais, les dindons se foutent pas mal que leur gardeux et prénom Paul ou bien Pierre, qui soient noirs comme une taupe ou rouquin comme une carotte. Ils brument, ils bêlent, ils gloussent, tout comme les gens qui votent. Mais ils savent point ce que c'est que de gueuler, vive monsieur le maire. C'est un tel qui est élu. Ben, les électeurs vont boire, d'aucuns comme à la noce, d'autres comme à l'enterrement. Et le soir, le peuple souverain s'en revint en brancillant. Il y a du vent, il y a du vent qui fait tomber les poires. Les vaches, les moutons, les ouais, les dindons, prennent des soulets d'herbe et de graines tous les jours de la semaine. C'est point pour ça qu'ils se mettent à chouer, parce qu'ils ont la panse pleine. Les élections sont terminées. Comme qui dirait que les couvrailles sont faites et qu'on attend moisson. Faut que les électeurs tirent écu blanc et jaunet pour les porter aux percepteurs de leur canton. Les petits ruisseaux vont se perdre dans le grand fleuve du budget où ce que les malins pêchent, où ce que naviguent les gros. Puis les électeurs font leur corvée, cassent des cailloux sur la route, où ce que leurs représentants passent en carrosse avec des chevaux qui se font un malin plaisir les sales rosses à semer du crottin au fur et à mesure que le peuple s'ouvre un balai. Les vaches, les moutons, les ouais, les dindons se laissent dépouiller de leurs œufs, de leur laine, de leur lait, aussi bien qu'ils avaient pris part aux élections. Boum ! V'là la guerre ! Et v'là les tambours qui cognent la charge. Portant drapeau, les électeurs avec leurs gars vont terper les champs de blé où ce qu'ils moissonneront pas. Feu ! Qu'on leur dit. Ben, ils font feu ! Vraiment, hache ! Hoppé ! Hoppé ! Et tant qu'ils peuvent aller, ben, ils marchent. Ils marchent, ils marchent. Les gros canons dégueulent ce qu'on leur pousse dans le pensier. Les balles tombent comme des pernes quand le vent se coule les perniers. Les morts s'entassent et sous eux, eh ben le sang coule comme du vin. Quand trois, quatre points solides serrent la vis au père souhait, v'là du pâté de peuple souverain. Les vaches, les moutons, les ouais, les dindons, pour le compte du fermier, se laisse crever la pio, tout bonnement. Bon Dieu, sans tambour ni drapeau. Et voilà comme c'est chez nous. Pourtant, les bêtes, elles se laissent pas faire des fouets. Pour un coup, le torio, il encorne le seigneur de l'abattoir. Mais les pauvres électeurs sont pas des bêtes comme les autres. Quand le temps est à l'orage et le vent à la révolte, ils votent.
Bien, c'était donc Pierrot Noir qui nous interprétait « Les électeurs » de Gaston Couté, le poète libertaire de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Une chanson assez savoureuse. Nous sommes toujours sur Micro Rebelle et sur Radio Plus 104.3, dans le cadre de l'émission « Débattre la campagne », avec nos invités, hein, Dominique et Cathy, qui s'investissent pour le boycott actif des élections. Nous reprenons notre entretien avec Dominique et Cathy. Alors on va revenir justement sur votre collectif, hein, Dominique et Cathy, pour peut-être évoquer pour nos auditrices et nos auditeurs bon, qui compose le groupe, autrement dit, c'est des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, enfin qui... Et puis ce que vous faites, hein, qu'est-ce que vous faites actuellement ? Dominique, je te laisse la parole.
Ok. Donc... Cathy a évoqué ça tout à l'heure dans son parcours de militant. Nous avons participé à un moment donné à Nuit Debout Lille et nous avons rencontré des personnes qui se ressemblaient, on se ressemblait sur pas mal d'idées politiques. Mais nous, on a trouvé que Nuit Debout était une impasse politique parce qu'il n'y avait pas la dimension de se transporter vers l'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on dit sur une place, sur l'agora comme ça, et il n'y avait pas de concrétisation de ce Nuit Debout. Mais il y avait quand même des gens intéressants à l'intérieur. Et quand on a commencé à évoquer ce qu'on voulait faire sur le boycott actif, tout de suite, il y a des anciennes personnes de Nuit Debout qui sont venues avec nous et nous avons pu constituer comme ça un groupe de 10, 11 personnes. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus par la suite. Donc, ce sont des jeunes et des plus âgés, hein, qui ça va de 20 ans jusqu'à 66 ans, je dois être le plus vieux, pour justement essayer de transformer tout ce qu'on a vécu pendant toute l'année dernière par le biais de Nuit Debout dans une pièce de théâtre. Ce qu'on a fait Pendant un an, en fait, on n'a pas été que sur la place de la République à Lille. On a fait plein d'autres actions avec les syndicats, dans des luttes, dans des grèves, à Hazebrouck, à Roubaix, à Maubeuge, à Valenciennes, à Amiens, avec les 8 de Goodyear. On a été dans tous les combats et pas forcément en train de papoter sur la place de la République. Et ça, toutes ces luttes-là nous ont rassemblés sur justement la réflexion de savoir mais qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça et est-ce que on peut dénoncer la République? Alors on a dit oui, on peut dénoncer la République, mais sous quelle forme? Alors nous, on a parlé justement du fait qu'on avait été à Liévin débattre justement de ce que ça pouvait être la démocratie ou pas, et ça nous a donné l'idée de d'en faire un tribunal populaire. Sauf que on sait très bien que on n'a pas trop les moyens. Donc le tribunal populaire, il a fallu le transformer pour sous forme de pièce de théâtre de rue. Donc on a commencé à rédiger une pièce de théâtre de rue avec la trame que Cathy a écrite. D'ailleurs, on a repris pratiquement l'ensemble de ce qu'elle a écrit, parce que ce qu'on voulait au départ, c'était que cette pièce de théâtre pouvait se jouer à 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 selon les rôles de chacun. Parce qu'on peut retirer un rôle sans que la pièce de théâtre en pâtisse.
Alors justement, peut-être, je t'interromps, Dominique. Cathy, tu peux nous en donner quelques mots de cette trame?
Oui, bien sûr. Alors évidemment, il y a la République qui jouera le rôle le plus impopulaire de la pièce, joué par moi-même. Voilà.
Ah, c'est pas flatteur alors?
Non, pas du tout, mais c'est moi qui ai exigé, qui ai voulu que ce soit moi qui joue la République. Parce que Marianne, je voulais être dans le mauvais rôle, je voulais être dans le rôle le plus impopulaire. Alors, parce que je sais quoi dire, je sais quoi répondre pour ma soi-disant défense, je sais comment attaquer les autres sur leur soi-disant faiblesse aussi, comme par exemple sur cette dame qui était enceinte, qui était caissière à Auchan, je sais quoi dire. Contre les migrants, je sais quoi dire. Comme quoi, soi-disant, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qui est une honte. Également aussi par rapport au Goodyear, la manière de parler, quand j'ai osé dire que les fonctionnaires étaient soi-disant payés quand ils ne travaillaient pas et quand ils faisaient grève, c'est absolument faux. Il faut qu'ils négocient, et encore ça n'a pas réussi, pour être payés pendant leurs heures de grève. Voilà, enfin toutes des choses comme ça. Donc c'est un rôle très impopulaire. Et donc à la fin de cette pièce, je suis à genoux et je m'enfuis à quatre pattes. Et puis je sais quoi faire avec des oreilles d'âne, et puis on me donne des coups et on crie « i-an, i-an, i-an ». Enfin, c'est vraiment une pièce hyper ludique et hyper pédagogique en même temps. C'est vraiment pour montrer au peuple tous les dangers, tous les mensonges, toutes les trahisons de cette République, toutes les horreurs que cette République nous offre. Cette République qui nous offre, c'est pas un cadeau en plus, c'est une horreur quand même.
On est pressé de voir cette fin de pièce.
Oui,
peut-être quelques mots sur les autres rôles.
Ah oui, mais bien sûr, pas de problème. Donc il y a Michael Vamen qui joue dans cette pièce, qui sera joué par une personne très compétente à qui nous avons donné beaucoup de notre amitié. Elle jouera Michael Vamen. Donc il y a la caissière d'Auchan de Tourcoing qui était enceinte et qui malheureusement a fait une fausse couche, et qui s'est vraiment très mal fait traiter par sa direction. Ensuite, également, il y a le chômeur. Ce chômeur qui a tenté de se suicider en se mettant sous un train et qui est venu handicapé témoigner de son malheur. Et c'est un camarade qui s'appelle Stéphane qui sera là. Il expliquera son désarroi, son malheur et sa tristesse face à Pôle emploi qui sans arrêt le radie. Parce que soi-disant, il n'a jamais actualisé sa situation, alors que c'est faux. Ensuite, également, il y a quelqu'un qui s'occupe des migrants qui sera là également. L'avocat général, j'avais oublié, joué par Pascal Tellier, qui lui aussi me chargera énormément. Dominique Lanérès, qui jouera quelqu'un de la LDH, qui me chargera aussi. Enfin, tous des camarades qui me chargent, qui en ont contre moi, qui me malmènent, qui me huent, qui m'injurie, qui me mettre à terre, qui m'enlève mon bonnet phrygien pour me coiffer des oreilles d'âne à la fin. Et donc cette pièce merveilleuse, que moi je juge merveilleuse, sera jouée le 2 avril à côté des Halles de Oisem.
Alors justement, on peut peut-être faire quelques annonces hein, sur ces initiatives publiques. Hein. Je pense que c'est complètement public. Hein.
Oui, complètement.
Et peut-être sur la façon aussi dont vous comptez l'annoncer, il y aura des affiches, des tracts, des messages internet, Dominique.
Oui, alors ça dépendra. Par exemple, sur la première représentation qu'on va faire le 2 avril au marché d'Oisem, il n'y aura pas besoin de faire d'annonce parce que les gens sont là. Hein, puisqu'ils viennent faire leur marché. Donc, ça sera notre premier test. On verra comment ça va se dérouler, parce qu'on n'est que des amateurs, on n'a jamais fait ça de notre vie. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Et ensuite, oui, pour certains endroits, on va faire ça par des flyers qu'on distribuera. On annoncera aussi dans des réunions où on ira. Il y a, par exemple, un carnaval qui va se faire le 1er avril. Là, on annoncera les endroits où on va se présenter. Même dans ce carnaval-là, peut-être qu'on fera quelque chose, on ne sait pas encore. Donc, il y a plein d'initiatives, mais on n'a pas toutes les dates. Parce que, justement, comme on est 10, il est très difficile parfois de réunir les 10 personnes en même temps pour jouer. C'est bien pour ça qu'on a fait une pièce de théâtre où, même s'il manque un rôle, c'est pas grave, ça fonctionne quand même, parce que c'est pas une suite historique. Chacun tient un rôle où il y a eu une actualité contre les ouvriers, contre le peuple. Hein, comme Cathy a dit tout à l'heure, donc avec les migrants, avec une caissière d'Auchan, avec les violences policières. Il y a les violences policières aussi.
Un chômeur aussi.
Le chômeur, l'étudiant, la fonctionnaire. Donc chacun a un rôle bien particulier là où il y a eu injustice. Et donc, toutes ces personnes-là vont attaquer Marianne, hein, puisque c'est la représentante de la République, Marianne. Donc, Marianne sera coiffée d'un bonnet phrygien, quand même, pour faire voir que c'est Marianne. Et puis, nous, on va la houspiller, la vilipender pendant toute la durée de la pièce, et l'avocat général va donner la parole à certains, parce que lui aussi, en tant qu'avocat général, il accuse Marianne. Donc voilà un petit peu la trame de la pièce. Et à la fin, nous allons chanter une chanson qui est une chanson du 19e siècle, une chanson anarchiste du 19e siècle, qui a été chantée par Marc Augeret à son époque, qui est « Faut plus de gouvernement ». Et cette chanson, à l'époque, c'était justement contre les élections où il y avait Jules Ferry, Boulanger et compagnie. Bien sûr que nous, on a enlevé ces noms-là et puis on a mis les noms de maintenant. Donc, on va chanter ça, justement. C'est une chanson qui est absolument contre les élections déjà il y a 100 ans, plus de 100 ans même. Voilà. Et on va faire à peu près une dizaine ou une douzaine de représentations jusqu'à la fin des élections.
Très bien, et je te remercie. Cathy ?
Ce qu'on va faire également, on va faire aussi des faux bureaux de vote. Simplement, des faux bureaux de vote avec des cahiers de doléances.
Ah, très bien. Alors, explique-nous comment ça va se passer. Alors,
C'est-à-dire qu'il y aura ces fameux bureaux de vote qui sont là.
Non, ce sera le jour des élections ou ce sera en amont?
En amont, d'accord. C'est fou, on n'a pas le droit. Alors on va être obligé de les faire une semaine avant. Et après, entre les deux élections, refaire un de faux bureaux de vote. Après tout, pourquoi pas? Moi, par exemple, en plus, une petite chose que j'avais décidé de faire, c'est d'aller quand même dans mon petit bureau de vote mignon avec un tract. Le tract qu'on a fait, qu'on a reçu contre la République. Et je le mettrai dans l'isoloir, avec un petit pavé par-dessus, pour leur montrer que nous aussi, on est là, les boycotteurs, que nous n'avons peur de rien. Et je mettrai un t-shirt boycott actif, pour montrer qu'on est là aussi. Voilà. Donc j'explique un petit peu comment seront faits ces faux bureaux de vote. Il y aura donc le bureau de vote qui sera institué avec un rideau. Et à l'intérieur, il y aura un cahier de doléances ou de revendications, qu'importe, on n'a pas trouvé le nom. Et on étalera également notre belle banderole que nous avons fait tous les deux, Dominique et moi. Notre belle banderole sera là aussi. Et également, nous rechanterons à nouveau des chansons révolutionnaires. Et nous discuterons avec les gens qui viendront nous voir. On distribuera des tracts, on continuera à coller des affiches.
L'auberge espagnole.
Et puis, il y aura aussi une sorte d'auberge espagnole. Une de nos amies qui va venir avec du thé à la menthe et qui va en offrir. D'ailleurs, elle sera toujours là. Elle sera là également aussi. J'avais oublié de la nommer. Fatma sera là le jour de la représentation, la première. Elle sera là avec son thé à la menthe qu'elle offrira à tous les passants qui passeront. Les passants qui viendront nous voir, nous applaudir. Bon, ben, ils boiront du thé à la menthe et puis ils nous connaîtront un petit peu mieux. On discutera avec eux aussi. On discutera avec les gens. On dira pourquoi est-ce qu'on boycotte. On boycotte pas pour faire de l'entre-soi. On boycotte pour faire passer un message. Pourquoi est-ce que nous attaquons la République ? Et réexpliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Parler de comment les représenter. Aussi, je voudrais parler de cette justice de classe que je n'ai complètement oublié de parler tout à l'heure. Alors, cette justice de classe qui ne fait pas grand-chose contre les voleurs comme M. Fillon, comme M. Macron, comme Mme Le Pen, etc., etc. Mais qui, par contre, s'empresse d'enfermer un petit jeune qui aurait volé un tout petit peu dans un magasin. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui s'empresse d'enfermer en prison également quelqu'un qui aurait volé deux paquets de pâtes et un paquet de riz. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, des candidats, on ne peut plus malhonnêtes, peuvent se présenter comme candidats. Mais quel bel exemple pour la France ! Quel bel exemple de faire passer un candidat malhonnête ! Ah, on a eu l'exemple avec Sarkozy déjà. Mais maintenant, on l'aura à nouveau avec Fillon. Et nous, nous sommes contre ça. Nous, nous voulons une démocratie transparente, faite par le peuple et pour le peuple. Et qui donne un exemple d'honnêteté, de sincérité pour le peuple. Voilà.
Alors, justement, contre la Ve République, contre la violence du système bourgeois, pour une autre démocratie, donc, on a bien conscience que ce ne sont pas des mots d'ordre, des revendications qui sont, qu'on entend usuellement. Alors peut-être, Dominique, est-ce que tu peux nous indiquer comment c'est reçu, ça ? Quel type de discussion vous avez ? Est-ce que les gens vous ignorent ? Est-ce que... Bref, comment vous rentrez en contact avec les gens et comment ça réagit ?
Alors, les gens ne nous ignorent pas. Nous avons deux genres d'attitudes. Ceux qui, effectivement, en ont marre de cette politique bourgeoise, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement des institutions telles qu'elles sont appliquées maintenant, et qui se réfugient dans l'abstention, dans le je-m'en-foutisme, où ils ne veulent plus entendre parler des votes, des scrutins, des élections et tout ça. Hein, et ça, effectivement, leur dire « ben, il faudrait quand même s'agiter et puis faire quelque chose », ils en sont déjà plus là. Et ça, c'est difficile à leur faire dire « mais oui, mais si vous vous abstenez, il faudrait peut-être le montrer et dire pourquoi ». Ça, c'est difficile. Et puis, on a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a tous les militants et tous ceux qui veulent voter qui nous disent « Ah, c'est un scandale de ne pas vouloir voter. On a donné le droit de vote, il faut l'utiliser et tout et tout. » Même dans les rangs de la gauche, et voire même de l'extrême gauche. Sauf que, d'abord, c'est pas obligatoire d'aller voter, c'est déjà une chose. Hein, et puis ensuite, on voit bien que c'est pas par le vote que quelque chose change. Mais ils sont tellement englués dans le fait qu'on nous assène tous les jours d'aller voter, qu'ils n'arrivent même plus à se dégager de cette idée-là pour se dire « ben, il y a peut-être une autre solution à côté ». Et ça, on entend ça tous les jours. « Ah, mais pourquoi vous allez voter ? Vous allez faire passer le Front National ». Sauf que, quand on regarde l'histoire de la Ve République et même des républiques d'avant, il n'y a jamais eu un gouvernement d'extrême droite fasciste qui soit passé à cause d'une abstention. Donc cet argument-là est faux. On ne fait pas forcément passer le Front National parce qu'on s'abstient, parce que par définition, l'abstention n'est ni à gauche ni à droite. Donc on pourrait aussi très bien faire passer le Parti Socialiste, pourquoi pas ? Parce qu'on s'abstient. Personne ne nous dit « Ah, vous allez faire passer le Parti Socialiste si vous vous abstenez ». Non, c'est tout de suite « Ah, vous allez faire passer le Front National si vous vous abstenez ». Il n'y a jamais eu aucun exemple historique qui appuie cette thèse-là. La seule thèse qui existe sur le fait que un gars d'extrême droite est arrivé au pouvoir, c'est en 1940 avec Monsieur Pétain qui s'est fait élire avec une partie du Parti socialiste qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Alors si il faut dire quelque chose à quelqu'un qui a fait amener le fascisme en France, c'est au Parti socialiste, pas aux abstentionnistes. Et ils n'arrivent pas à donner ce type d'exemple en disant « bah vous allez faire passer ». Mais qui nous le prouve ? Et jamais, il n'y a eu un gouvernement qui a basculé à cause des abstentionnistes. Donc ça tient pas. Et en plus, c'est du chantage. Parce qu'en disant que « oui, vous allez faire passer le Front National avec votre abstention », c'est nous faire peur d'avance en disant ben voilà, si vous faites ça, voilà ce qui va se passer. Ça n'est que du pur chantage. Et déjà en 2012, déjà en 2007, déjà en 2002 et surtout en 2002, on nous a agité le chiffon brun du fascisme en disant venez voter, sans quoi c'est le Front National qui va passer. Et ben nous, on ne marche plus dans cette combine là. C'est-à-dire que c'est leur cours politique de la 5e République. Nous, on va dans notre cours politique pour construire autre chose, pour saper justement la 5e République.
Bien, on s'achemine maintenant vers la fin de notre émission. Et j'avais envie, Dominique, de te poser une question peut-être un petit peu provocante. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion ? Comme quoi le droit de vote, c'est une chose importante. Il y a des gens, beaucoup de gens parmi nos ancêtres, hein, qui se sont battus pour obtenir ce droit de vote. Hein, le droit de vote est issu des luttes du peuple. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Il n'y a jamais eu de combat pour le droit de vote. Ça n'existe pas. Sauf pour le droit de vote des femmes, qui, elles, oui, ont combattu, sont descendues dans la rue pour avoir l'égalité avec les hommes. Mais les hommes, on leur a pas, ils sont pas descendus dans la rue pour avoir le droit de vote. Ça a toujours été par des constitutions différentes. Les quatre républiques et la 5e ont donné des droits de vote différents aux gens, aux hommes d'abord, hein. Donc, il n'y a jamais eu aucun mort en France parce qu'il serait descendu dans la rue pour réclamer son droit de vote. Ça n'existe pas. En 1830 et en 1845, en 1848, les révolutionnaires qui sont descendus dans la rue, c'était pour une république. Et effectivement, à l'intérieur de la république, il y avait le droit de vote. Mais ils sont descendus pour la République, pas pour le droit de vote. Il faut quand même faire une différence, hein, parce que la République, quand ça a été après la Troisième République, ils n'ont pas donné un droit de vote universel et non pas non plus pour les femmes. Donc ça veut dire que c'était encore restrictif. Il faut pas croire que les tueries de 1830 ou de 1848 ont amené directement un droit de vote universel. C'est archi faux. Donc ce sont des arguments fallacieux qui ne sont pas justifiés par l'histoire. Et donc, voilà, tous ces arguments-là que j'ai déroulés depuis tout à l'heure, les gens ne connaissent pas leur histoire et ne savent pas comment le droit de vote universel est arrivé. Eh bien, il est arrivé, le plus grand droit de vote universel qui est arrivé, c'est en 1958 avec De Gaulle. Mais on voit très bien que ça perce de partout, que ça déborde de partout, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus avec ce droit de vote. Quand tout à l'heure je disais que un élu pouvait être élu entre 35 et 40%, c'est qu'il y a un os quelque part. Donc ça n'est plus démocratique. Donc ça veut bien dire que on a des arguments justement qui font que on peut combattre les arguments des gens qui ont l'habitude d'aller voter, comme je dis souvent, en horde moutonnière, nous allons voter. On ne réfléchit plus à ce qu'il puisse y avoir une autre direction que les élections. Et d'ailleurs, là où je reproche justement à la gauche d'aller voter, c'est qu'ils ont cassé le mouvement contre la loi travail. Ils ont abandonné, ils ont liquidé ce mouvement-là pour se préparer pour les élections. C'est-à-dire qu'ils ont choisi leur camp. C'est d'abord les élections, la loi travail, ils s'en foutent. Et donc ça, c'est absolument scandaleux. Moi, ça me donne pas du tout envie d'aller voter pour ces gens-là qui ont liquidé la loi travail en désertant les rues et en disant à Comrie, changez votre loi.
Bien, je te remercie Dominique, hein, je te remercie Cathy. Je remercie le collectif pour le boycott actif des élections d'avoir répondu à notre invitation. Je vais peut-être finir par communiquer l'adresse à laquelle nos auditrices et nos auditeurs peuvent joindre le collectif. Donc le plus simple, c'est d'écrire à cette adresse courriel démocratie par le peuple, donc tout collé, hein, démocratie par le peuple @gmail.com. Je vous signale aussi, je vous rappelle également, hein, chères auditrices, chers auditeurs, que vous pouvez poser des questions à chacun et à chacune de nos invités. Hein, donc typiquement en écrivant directement à Micro Rebelle à l'adresse contact@microrebelle.fr. Hein, nous transmettrons les questions à nos invités et nous les reposerons à l'occasion de nos prochaines émissions. Donc nous terminons cette émission en vous rappelant que notre émission Débattre la campagne est diffusée simultanément sur le site de notre web radio microrebelle.fr, hein, micro-rebelle au pluriel.fr, et sur Radio Plus 104.3 tous les mardis à 18h. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast et en téléchargement sur microrebelle.fr. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.